Moi, je voulais simplement et d'abord partager le vrai plaisir éprouvé dans cette journée. Je la trouve d'un très haut niveau. Et quand je dis très haut niveau, il ne s'agit pas du caractère compliqué d'une démarche qui demanderait d'être nobélisable pour la comprendre. Non. Il s'agit plutôt de l'ancrage profondément humain et, je dirais, terrien dans la réalité simple du quotidien de quelqu'un qui partage une expérience de malade ou d'usager, pas forcément en étant malade, d'usager du système de santé, de quelqu'un qui est un professionnel de santé, de quelqu'un qui est un agent hospitalier public, de quelqu'un qui est a priori extérieur au monde de la santé et qui nous a démontré par son talent qu'elle connaissait bien dans sa finesse, les problématiques qui se posaient. Et puis quelqu'un d'autre qui est aussi en un sens extérieur au monde de la santé, mais il nous a avoué d'emblée qu'en réalité il l'avait fréquenté, ce monde de la santé, de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Et donc, vraiment, ça fait un mélange qui m'a personnellement enrichi. Alors, deux temps dans cette dernière ligne droite, celui d'une table ronde, en réalité, vous le voyez bien, qui est carré, mais ça c'est classique, deuxièmement, celui d'une petite synthèse dont je me chargerai. Pour la table ronde, deux versants. Un premier versant où vous allez poser des questions qui vous restent encore sur le bout de la langue ou à l'intérieur de la bouche ou même de vous-même complètement à celui que vous choisirez, et puis je vais, avant de vous laisser justement les poser ces questions, en réserver une à laquelle je demanderai à chaque participant de la table ronde d'abord de réfléchir puis peut-être de répondre. Ma question s'ancre dans l'argument qui a fait la journée. Merci, Johan. J'en lis un extrait. C'est le début, d'ailleurs. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? C'est donc Matthieu 5, 46. Vous savez que c'est un extrait du fameux Sermon sur la montagne, toute une série de paroles de Jésus prononcées devant un large auditoire. Ça continue. Cette parole de Jésus nous pousse à une différence visible entre nos contemporains non chrétiens et nous chrétiens. Ma question, c'est à chacun de vous donc, quel est le critère de cette différence ? L'argument suggère que ce serait un critère de visibilité, mais je demande, est-ce que c'est forcément un critère de visibilité, d'objectivité qui fait la différence entre un soignant chrétien et un non-chrétien ? Et je vais être encore plus précis, aller un petit peu plus loin. Si on admet qu'il puisse y avoir un critère éventuellement objectif, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi passer par l'oreille ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi cette parole nous pousse à une différence audible entre nos contemporains non-chrétiens et nous ? Voilà, c'est la question à laquelle je voudrais que vous réfléchissiez un peu et sur laquelle je voudrais que vous exprimiez après que vous ayez répondu aux questions qui brûlent encore les lèvres, et c'est à vous. Il a été rappelé que ce matin, les deux premiers intervenants se sont exprimés sans qu'il y ait pour eux la possibilité d'entendre ou de répondre à des remarques ou à des questions. Donc c'est peut-être préférentiellement à ces deux premiers intervenants que vous pourriez éventuellement faire des remarques ou poser des questions. Précisément.
Je dirais, Johan, comment tu sais ? Parmi tous ces soignants, maintenant.
Ici, là ? Ah ouais, je me sens très bien.
Est-ce que tu peux me parler un peu d'Alice ?
Comment ?
Est-ce que vous vous avez su un peu plus sur Alix, qui était Alice.
Alix et Nice.
Alice.
Voilà, est-ce que j'ai compris Alix
et sa fonction.
Alice, sa fonction, tu veux dire sa fonction
Alice. Alice
est soignante.
D'accord.
Et après, en fait, on a rediscuté un petit peu, parce que du coup, on s'est revus quand on est retourné, quand on est revenu à l'hôpital à un autre moment, en fait, on l'a revu et on s'est échangé les numéros de téléphone. Et puis elle nous a retéléphoné une fois, par erreur d'ailleurs en fait. Elle a voulu téléphoner à quelqu'un, et puis moi je vois Alice affichée, je dis tiens, bah Alice, je connais pas 36 Alice, puis bonjour. Et en fait elle s'est trompée de numéro, et en fait on a parlé, et puis on lui a donné des nouvelles. Et,
elle a parlé en fait avec sa blouse, enfin elle avait sa blouse quand elle a pris avec nous.
Ouais. Alice, je connais pas sa nationalité, mais je pense qu'elle est de culture africaine. Je sais pas si elle est de nationalité française ou pas, pas le problème. Mais et elle vient de la DD. Donc je pense que le concept de laïcité, c'est un concept justement. Hein, c'est un autre monde. Donc en fait, elle s'est même pas posé la question.
Non.
Et on est très content qu'elle se soit ajoutée. C'est bon ça, c'est bon ça. Donc je pense aussi, et on le disait dans notre petit groupe tout à l'heure, je pense que ce soit au niveau des patients qu'au niveau des soignants, toutes les personnes qui sont pas de, qui ont pas, sont pas de culture française, ce truc de la cité, ils comprennent pas grand chose. Hein. Et du coup, à mon avis, ils passent outre sans trop de
scrupules. Voilà, c'est tout.
Exactement. Donc voilà.
Parfois, le risque est élevé quand ils sont
pris, quoi.
Mais non, quand ils sont embauchés dans un hôpital, en principe, ils sont pris une formation quand même. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un risque pour les personnes d'origine étrangère qui n'ont pas cette culture et qui se font voir.
En fait, nous, le problème, c'est qu'on connaît la loi. Celui qui connaît pas la loi, comme dit Paul,
Là, on était en chambre seule.
Ouais, et puis tu n'as pas demandé.
Là, pour le coup, voilà, là, il y avait une connexion directe. Il n'y a pas de problème. Ouais, parce que moi, je dis, d'accord, tu vas les aider, je connais bien ton pasteur. Voilà, hein. Bon, on va se prier.
Par contre, c'est plus sûr.
C'est ça, encore.
Et
Yoann,
en fait, du coup, parce que. Tu dis que. En fait, ce qui t'a fait du bien, c'est le moment de prière que tu as eu avec.
Ouais.
Parce que si c'était. Enfin, du coup, c'est pas juste une intention. C'est vraiment le côté spirituel, du coup, finalement, qui t'a. Parce que si une personne, par exemple, avait été juste attentive, mais qui n'était pas forcément dans la foi, est-ce que ça aurait changé?
Bah, ça aurait quand même été vraiment bien, quand même.
Ouais.
Je pense qu'il y a aussi le fait qu'elle était particulièrement attentive. Il y avait un côté maman. Parce que finalement, Mélanie, ce qu'elle avait besoin, c'est une espèce de maman. Enfin, là, quelqu'un qui disait ah là, ma pauvre. Parce que moi, ça suffisait plus, quoi. Non, mais elle avait besoin de quelqu'un qui dise ah, c'est vrai, c'est dommage. Et en fait, clairement, les sages-femmes qui passaient tout ça, en fait, elles disaient ah ouais, bah, c'est vrai que c'est dur, et puis elle partait. Enfin, donc, c'est pas qu'en fait, elles s'en foutaient. Elle disait, elle me posait des questions, ça va. Ah bah oui, c'est vrai, voilà, et puis hop, elle a autre chose à faire. Donc en fait, il n'y avait pas une vraie compassion, et je leur jette pas la pierre. Mais là, du coup, là, pour le coup, Alice, là, il y avait un côté de... Oh, c'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est aussi l'importance de la complémentarité dans
tout. Oui, exactement.
Parce qu'à la limite, même si elle n'était pas chrétienne, vous aviez besoin d'une personne qui prenne le temps, qui soit plus relationnelle.
C'est ça, c'est ça. C'est ça.
On n'est pas tous égaux, mais...
C'est ça, ouais. Et c'était aussi vraiment ce moment-là. Un moment où en fait on a l'impression que vraiment on est au bord de la catastrophe.
Ouais.
On a juste besoin là de quelqu'un qui veut dire ah ouais, c'est. Enfin de quelqu'un qui compatit pour de vrai, quoi.
C'est un peu le problème de la vraie compassion.
Ouais, c'est ça. On a besoin de câlins, quoi. C'est très simple.
La question actuelle de notre pays, c'est qu'on traite, c'est un petit peu comme ça. Et moi je l'ai vécu aussi il n'y a pas longtemps. On traite un petit peu une pathologie, un symptôme. Voilà. Il y a ce qui se passe au niveau psychologique, ce qui se passe au niveau aussi spirituel, et on prend un petit peu les gens par partie de.
Ouais, ouais.
Alors qu'on n'est pas partout, on est les trois avec moi.
Et là, c'est un peu. Justement, en fait, à la PMA par exemple, pour faire une nouvelle fonction, enfin, pour relancer un cycle à la suite d'un échec de FIV, il faut passer par la psy, c'est obligatoire.
Ouais,
mais du coup, je pense qu'il dit la psy, elle fait pour ça. Tu veux chialer, t'as la psy. Mais en fait, le personnel, il se sent pas du tout investi de quoi que ce soit. Il y a, ouais, voilà, tout le monde est planqué derrière son écran, en fait. En fait, ils font des échos. Puis,
oui, mais là, il y avait quand même une dimension, enfin, justement, la prière, quoi.
Oui, avec Alice, oui, pour le coup, oui, là, il y avait tout.
Il y avait quand même une dimension.
Ah oui, c'est ça. Je pense que c'était aussi à la mesure de notre détresse.
Bah voilà.
Vraiment,
c'était à réponse, il l'a
Exactement. C'est ça. Et du coup, voilà, moi je pense que c'était aussi la bonne réponse à ce moment-là pour nous. Mmh. Après, je pense que la question d'écouter, d'avoir une vraie attention, ça suffit déjà.
Et ce que dit Déborah, c'est d'autant plus vrai que maintenant c'est hyper spécialisé. Il y a des cardiologues, rythmologues, hypertensiologues. Et c'est vrai que ça devient très très compartimenté, encore plus. Donc on voit encore moins la personne dans sa globalité. Et moi, je sais qu'il y a des patients, parfois, ils me disent « Mais comment vont les gamas, docteur ?»« Bah, gamas, je sais. » « Je ne sais pas, je ne les ai pas demandés. » Mais exprès. Et il dit « Ah, bah, quand même, comment ça ? Vous n'avez pas demandé mes gamas comment ?» Je dis « Vous savez que vous buvez. » Donc, pourquoi vouloir demander les gamas ? Parce que pour eux, c'est « Mes gamas vont bien, je vais pouvoir boire plus. Je ne suis pas alcoolique. » Et en fait, on devient, même le patient lui-même se définit en acte biologique. C'est plus le
choix,
c'est les
gamins. Alors, on peut un petit outil de différenciation. Le traitement s'instaure souvent dans une atmosphère de combat. Le soin s'instaure dans une atmosphère de paix ou d'apaisement de la douleur et des symptômes pénibles. On parle d'ailleurs en cancérologie d'un traitement d'attaque et d'un parcours du combattant. Tout le vocabulaire est centré autour du combat et le traitement vise la maladie, alors que le soin est plus largement focalisé sur l'ensemble de la personne. Et de manière générale, les instituts de formation infirmiers ont, à travers l'évaluation des besoins, une orientation plus directe sur la personne que les facultés de médecine qui sont plus concentrées sur la différence entre le normal et le pathologique, ce qui n'est pas un chemin très direct pour s'enquérir de comment vont les personnes. Mais c'est en train de changer. C'est avec un recul, on en a marqué moins de ce recul-là d'une quarantaine d'années. Il est lent, mais l'évolution se fait quand même vers une prise en considération. Voilà. Alors, le temps est venu pour vous de dire quelque chose sur la question de cette différence entre le soignant tout venant, je dirais, et puis le soignant croyant. Est-ce qu'il y a un critère véritable de différence, objectif, démontrable en quelque sorte? Faut-il le chercher? Est-il indispensable? Passe-t-il par la vue? Passe-t-il par l'oreille? Ou bien, éventuellement, est-ce qu'il peut y avoir une différence dont le critère et le juge ne seraient pas de ce monde?
Moi, je dirais juste une phrase. Notre visibilité dépend de notre intériorité.
Mmh. C'est tout. Merci. Je note. Notre visibilité...
Oui. Pour que l'image du Christ transparaisse au travers de nous. C'est un peu dans cette direction que j'irai. Donc en fait, ça ne dépend pas de nous. Mais on sait à qui on a donné sa vie.
Oui. Merci Anne. Oui. On pourrait suggérer que nous avons chacun aussi éventuellement le choix de rendre visible, audible, perceptible notre intériorité. C'est-à-dire de l'exposer. Et à ce moment-là, il me semble que ça met en jeu une autre valeur qui a sans doute beaucoup d'importance dans la relation de soins ou la relation entre aumônier et celui qui l'accompagne, c'est la confiance. Est-ce que la confiance, ça n'est pas justement ce fait de consentir à exposer sa vulnérabilité parce qu'on croit qu'en l'exposant, il y a certes un risque d'être trahi, mais davantage de chances que cette confiance soit honorée et que finalement on en tire du bénéfice. Mais il y a toujours un risque. Alors, la différence, est-ce qu'elle est si évidente que ça? Est-ce qu'elle doit être si évidente que ça? finalement.
Excusez-moi, je
vous
aime beaucoup.
Bon vent, bon retour.
Oui, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que voilà, poser la question à un conducteur d'autobus, à un chef d'orchestre, et,
c'est vrai.
Voilà, mm-hmm. un agriculteur, est-ce que mm-hmm. être, c'est être différent? Je ne dis pas que la réponse soit forcément oui ou non.
Bien sûr.
Mais
bien sûr.
Je ne vois pas pourquoi elle serait différente pour un soignant.
Tu as commencé ton propos ce matin comme ça, et merci de le redonner très à propos, bien sûr. Oui. Oui. Bien évidemment. Oui, oui, pardon.
Pour moi, Dieu n'attend pas de nous une performance particulière. Dieu n'attend pas qu'on soit le meilleur soignant, le meilleur juriste. Donc, ce qu'il vous demande, c'est de vivre l'évangile et voilà, d'aimer vos patients, d'aimer vos collègues, et ça suffit pour faire la différence. Pour moi, c'est vraiment une question de savoir être, comme tu dis, et un patient, je pense qu'il veut avant tout être soigné par un être humain, par une personne, et pas un robot qui s'occupe de traiter juste du diagnostic, et puis c'est tout. D'ailleurs, enfin, on parle un peu de personne, dans le droit, la personne, elle est définie, l'être humain, il y a une intégrité physique, mais il y a aussi l'intégrité morale. Ça fait partie de la composante juridique. Mm-hmm. Vous soignez une personne, et donc c'est un peu les deux, et le fait de s'occuper de cette intégrité morale, et le fait par exemple, de prendre du temps pour discuter avec le patient, de rechercher son consentement, ce genre de choses, ça contribue à prendre soin de l'intégrité morale de la personne. Donc, pour moi, un soignant chrétien, c'est quelqu'un qui va prendre soin de la personne en... qu'on puisse voir Dieu à travers lui. Mais après, il n'y a pas forcément besoin de l'afficher. Et Dieu ne vous demande pas de mettre une bannière. Soignant de l'année. Faites de votre mieux et c'est tout, ça suffit.
De votre mieux, voilà. En quelque sorte. Est-ce que
faites
ça rejoint...
de votre mieux comme vous pouvez.
Oui, alors est-ce que ça rejoint ce qu'on entend quand même assez souvent parmi les soignants, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne soient pas croyants, c'est nous sommes dans une obligation de moyens, mais nous ne sommes pas... quand nous sommes soignants, dans une obligation de résultat.
Il y a un peu cette idée, vous faites ce que vous pouvez, et puis... Après, vous ne savez pas quel est l'impact sur la personne, de toute manière.
Et pour moi,
Oui, mais dans le quotidien, on est quand même face à une demande en grande partie légitime de résultat. Elle est parfois légitime, parfois pas légitime, mais elle est pour la personne légitime, autant. Il faut savoir prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas parce qu'on projette sur nous cette capacité de résultat qu'on doit se l'approprier. Mais on est face à ça et c'est pas simple pour les soignants. Des gens viennent vous voir, on ne dit pas écoutez, docteur, faites ce que vous pouvez. On n'entend pas cette demande-là. Et puis, si vous n'y arrivez pas, tant pis. Hein. Non, c'est pas comme ça. C'est une tentation qui est effectivement... On se dit ça, mais concrètement, on n'est pas face à une demande qui est formulée comme ça. Et c'est là qu'est la tension. Si on est chrétien, s'il y a une différence, c'est qu'on a l'absolue certitude qu'on n'est pas les maîtres. Ça, c'est sûr. Et oui. Je pense que ce savoir serviteur inutile est quelque chose qui est très apaisant.
Ça fait baisser la pression.
Absolument.
Et le stress.
Absolument.
Et ça prévient le burn-out.
C'est très apaisant parce qu'il n'y a rien de pire que de se croire responsable au sens complet de tout. En plus, en médecine, alors, on perd à tous les coups. Parce que, au dernier nouvel, tous les hommes finissent par mourir.
Voilà.
Et donc, si on imagine que parce que quelqu'un va s'adresser à nous, on va dire qu'il a 20 ans de plus que nous pour tout le sein, et que donc, s'il finit par mourir, c'est un échec,
et voilà.
C'est insoluble, c'est insupportable.
Et si on se croit donc maître d'auto, y compris de la mort, évidemment, la voie est grande ouverte vers une euthanasie active, puisque être maître de la mort, c'est simplement pouvoir régenter soi-même les conditions de cette mort.
Ce que je me dis quand même, c'est que s'il devait y avoir, je sais pas, une sorte d'un apport chrétien
à l'hôpital, par exemple, mm-hmm. ce serait d'avoir un changement de paradigme au niveau du fonctionnement, mm-hmm. d'avoir plus de moyens.
Enfin, mm-hmm. Il faudra faire ça à la réunion sur les directeurs de vitro-crédit.
On va l'inviter, on va l'inviter de venir.
Non, parce que en fait, c'est clairement le problème, c'est ça, c'est qu'il y a trop de trucs à faire, il n'y a pas assez de personnel. Enfin, voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est voilà, qu'il y ait plus d'argent et qu'il y ait aussi sûrement une direction aussi qui prenne plus ça en compte. Et c'est ce qui changerait les choses, à mon avis.
Merci.
Mais bon, voilà, c'est un peu discours gauchiste. Hein, mais...
la diversité.
Tant pis. Hein.
Moi, je recadrerai un peu la question dans le domaine de la relation en reprenant peut-être le titre d'un des réseaux, je crois que c'est celui de l'entreprise. Donc, tu aimeras ton patient comme toi-même, tu aimeras ton collègue comme toi-même, et sans oublier que ça découle du premier commandement que Jésus rappelle, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta pensée. Et de toute ta force. Donc ça découle de ça, et au fond, c'est quelque chose qu'on est amené à faire au quotidien chez soi, qu'on est amené à faire à l'Église, et qu'on est aussi amené à faire sur son lieu de travail, quel qu'il soit, avec toutes les contraintes qu'on a rappelées aujourd'hui dans le domaine médical, mais que je pense que le chrétien est amené à faire d'une autre manière, parce qu'il sait que la racine, l'origine et la source n'est pas la même. Et donc pour moi, ça devrait pouvoir se voir, alors dans le domaine médical aussi, mais en fait dans tout domaine de compétences, il y a des contraintes, hein. Par une disponibilité, là je rejoins ce qui a été dit par Anne, une disponibilité parce qu'on est habité par l'esprit et par Dieu, c'est-à-dire que voilà, on est disponible non pas parce qu'on va répondre à tous les besoins, parce que voilà, on se prend pour le sauveur, à ce moment on n'y arrive jamais, mais on est disponible parce qu'on arrive à discerner finalement ce que Dieu veut de moi aujourd'hui dans une présence, et voilà, donc c'est ça ce qui devrait pouvoir être remarqué. Au fond, on ne va pas mieux faire son travail, parfois on commettra autant d'erreurs sinon plus que les autres, mais on sait que voilà, à l'origine de ma vie et aussi de ma vocation et aussi de mon travail, ben, il y a Dieu, quoi.
À l'origine et à la fin. Merci beaucoup. Je crois que cette table ronde, sauf si quelqu'un y voit un inconvénient, se clôt avec le mot de Michael. Et puisque le IT du départ, non, c'est vrai qu'on n'est pas ni chez les latins ni chez les catholiques.
Mais tu viens de parler en langue. Ouais.
et pour dans 6 minutes, c'est ça, c'est 17 heures.
C'est ça.
Donc, j'ai été chargé d'une sorte de synthèse, bien évidemment. La densité du propos d'aujourd'hui ne me permettra pas d'être vraiment fidèle ni exhaustif, mais je vais juste faire quelques propositions de trois à méditer. Il me semble d'abord que un fil conducteur, alors qu'il ne se s'était pas concerné, réunit les intervenants. Je l'appellerai celui d'une invitation à une démarche. Une démarche évidemment soignante, une démarche qui est articulée et équilibrée. Une démarche articulée et équilibrée, on pourrait dire, dans un langage très laïque, entre technique et humain. Je l'ai remarqué d'abord chez Michael, quand il a indiqué dans son commentaire que le mot utilisé pour désigner la réaction de Jésus face à ce cortège funèbre, et le mot et qu'il regarde, mais avec une double nuance, c'est les mots en fait. Le premier mot, tu as indiqué que ça peut être traduit par examiner, et le deuxième mot avait plutôt la connotation de la compassion. Et donc, je retrouve dans ces deux éléments-là l'examen, notre pratique traditionnelle à laquelle où les anciens ont été formés, les nouveaux vont l'être, de la sémiologie, même si elle est moins à la mode, qui commence par inspecter, écouter, palper, ausculter, on est d'accord ? Et maintenant, le inspecter, nos sens se sont atrophiés, et c'est l'imagerie avec toute son extension qui en est en quelque sorte la prothèse, en est dans le, dans tous les, ce qui va être évoqué dans une des prochaines rencontres, le droit à voter au transhumanisme, mais peu importe. En tout cas, il y a cette idée-là, de, même dans un examen tout simple d'une consultation, vient un moment où, quand on a dit bonjour, comment allez-vous, qu'on a écouté, un moment de l'examen. L'examen, on ne fait pas une anesthésie générale pour l'examen, évidemment, mais quand même, la personne devient un instant passive et avec notre consentement, elle va se prêter comme un objet à des gestes que, dont nous avons complètement l'initiative comme médecin. Et j'ai pris au fil du temps, je ne l'avais pas quand je suis sorti de la faculté, mais j'ai pris l'habitude que j'ai gardée et ancrée de plus en plus de remercier la personne quand je l'invitais à se rhabiller et quand l'examen était fini. La remercier d'avoir accepté de se prêter à cet examen dans lequel elle est vraiment réduite à l'état d'objet, mais c'est méthodologique et il s'agit de l'insérer dans quelque chose de plus large qui est justement le côté humain de la rencontre. Voilà. Donc pour Michael et pour Johan, je retrouve ça aussi quand Johan raconte qu'avec sa compagne il est d'abord plutôt décontenancé, refroidi et on ne va pas reprendre tous ces états d'âme tellement bien décrits ce matin et compréhensibles. Et puis, le côté beaucoup plus chaleureux qui vient à travers une simple question tout à fait symbolique. Comment allez-vous ? Et là, le regard technique et soignant, centré sur la technique que je voudrais bien réaliser, se déporte et se centre là où il aurait dû être tout de suite, sur la personne qui est reçue. Comment allez-vous ? Et j'en profite là pour dire que moi, le témoignage de Johan m'a particulièrement touché parce que je viens de parler de confiance comme capacité à exposer son intimité et sa vulnérabilité. Pour le coup, c'est le choix qu'il a fait. Et je suis assez convaincu que de faire ce choix de partager ce vécu qui met en jeu des techniques pour lesquelles des questions d'éthique, évidemment, se posent, et sans doute créer des tensions à l'intérieur même de nos milieux d'église, sans doute que de savoir que quelqu'un de l'église a choisi d'en parler, ça peut tout à fait délier d'autres langues, libérer certaines personnes qui jusqu'à présent n'osaient absolument pas parler de ça, alors qu'elles y avaient eu peut-être recours. Donc vraiment merci pour ça. Ensuite, Marc, à travers sa lecture qu'il a dite non théologique, avec de la modestie, mais tellement réaliste, pleine finalement de bon sens et d'humanité, de toutes ces situations où Jésus est en situation de soignant finalement. Là aussi, il a à plusieurs reprises mis en évidence le côté méthode et technique qui peut passer par des choses éventuellement étonnantes, de la salive sur les yeux, enfin va te montrer au prêtre pour qu'il entérine et valide la guérison. C'est un côté tout à fait intégré, protocolaire, procédural, complètement assumé par Jésus lui-même. Et puis, là aussi, sous la forme d'une question symbolique, à plusieurs reprises, le regard de Jésus qui se porte d'abord vers la personne concernée en lui demandant « Mais qu'est-ce que tu veux en réalité ? Qu'est-ce que tu veux ?» On retrouve encore donc cette articulation que je trouvais harmonieuse. Ce n'est pas la luxation, là, c'est vraiment une articulation bien huilée entre deux jambes d'une démarche, le côté humain et le côté technique. J'ai retrouvé ça aussi chez Nour quand elle nous a, après avoir de manière extrêmement carrée mais dans le bon sens, très pédagogique, donné le cadre dans lequel s'inscrit le droit. Moi j'avais bien apprécié les règles générales que posent, les principes généraux que pose le juriste, puis ensuite des exceptions en fonction des situations particulières. Mais elle a bien aidé à faire comprendre que le juriste n'est pas là pour l'application mécanique de cette loi, mais qu'il ouvre aussi dans cette loi la possibilité d'une interprétation, et on l'a vu en particulier avec la proposition qu'elle nous a faite sur les prosélytismes en fonction des différentes situations et des précédents juridiques qui ont déjà existé pour ça. Et puis je l'ai revue encore pour Anne cet après-midi, qu'elle l'a bien dit, elle aurait pu quelquefois se contenter du job qu'on demande au minimum d'un aumônier protestant, la lecture d'un passage, la prière, et basta. Et non, on a entendu que ça se passait complètement autrement, dans l'esprit d'un accompagnement où on part dans une aventure, on sait quand ça démarre, on ne sait pas quand ça va finir, ni dans quelle direction ça finira, et ça peut aller jusqu'à de l'interculturel. Et moi, je suis vraiment impressionné par un directeur qui vous embauche et qui ne vous donne même pas la liberté de dire non si vous voulez gagner votre vie, puisque, écoutez, ou vous montez une aumônerie interculturelle, ou je vous vire, et puis vous n'êtes pas employé ici. Quoi. C'est ça que j'ai entendu. Bien, mais voyez, ça me semble un fil d'Ariane, c'est intéressant, cette démarche articulée entre ces deux aspects-là, avec toute la confiance que ça présuppose, et en l'autre, humain face à soi, et bien sûr en l'autre avec un grand A, qui est au-dessus de nous, au milieu de nous et en nous. Et alors justement, je voudrais finalement, pour votre chemin de retour, vous suggérer cette image pour rassembler l'affaire. Voilà. Une espèce sonnante et trébuchante, une pièce de monnaie. Mais vous savez tous, comme moi, qu'elle a un côté pile et un côté face. Un côté pile avec un chiffre, c'est 1 d'euros, et un côté face avec un visage ou une figure. Je trouve qu'une pièce comme ça figure très bien ce qu'est une démarche de soin, avec un côté pile qui correspond aux actes techniques nécessaires, il faut les assumer. Ils sont quantifiables, l'administration a besoin de ça pour sa T2A, ça correspond à de l'argent, c'est de l'argent public, l'administration doit le gérer, on ne peut pas lui en vouloir pour ça, tout ça fait un tout cohérent. Et puis, alors ça va avec la compétence bien sûr, technique, etc. Et le côté face bien sûr, vous l'avez deviné, il correspond au face-à-face de la rencontre, tout aussi nécessaire. Et de la même manière que vous ne pouvez pas séparer le côté pile et le côté face d'une pièce, sinon ce n'est plus une pièce, et bien de la même manière, un soin et un soin dans son intégralité, c'est l'un et l'autre. Ça ne peut pas être simplement, ça a été dit en particulier par Marc ce matin, le côté relationnel sans rien d'autre. Ça ne peut pas être non plus le côté technique exclusif sans rien d'autre. Il faut que ce soit un mélange intégré des deux aspects. Et je reviens à travers ça vers un texte que nous connaissons tous, qui est un texte centré sur, finalement, l'hospitalité. L'hospitalité exercée, Luc 10, par deux sœurs, Marthe et Marie. Hospitalité à l'égard de Jésus. Elles l'accueillent, et vous connaissez l'histoire. Il y en a une qui fait la tambouille, l'autre qui écoute plutôt Jésus, donc l'une de manière caricaturale qui serait plutôt du côté pile de la pièce et l'autre du côté face. Alors c'est celle du côté pile bien sûr qui s'excite un peu et qui dit tu pourrais un peu m'aider. Jésus de son côté indique effectivement que Marie a choisi la meilleure part, mais je note bien que Jésus ne condamne pas du tout Marthe et j'imagine, c'est pas écrit dans le texte, mais qu'il a quand même dû profiter ce soir-là de la bonne tambouille que Marthe avait préparée. Attention, on est d'accord. Et donc finalement, il me semble que ce texte, c'est l'invitation à surtout ne pas choisir Marie contre Marthe ou Marthe contre Marie, et que là encore on retrouve dans l'accueil et l'accompagnement qui est le préalable aux soins, la nécessité d'articuler les deux. Voilà, bon vent.
Merci. Merci. Merci à tous.